l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence sur le Causse, 106.5.
Allez, on va que se balader encore aujourd'hui dans ce Présence Midi. Soyez toutes et tous les bienvenus. Merci de votre fidélité. On va partir du côté de la Loubert dans un instant, côté de Tarbes, pour parler d'une belle opération. C'est le Rotary Tarbes Bigorre et le club 911 Pyrénées qui proposent des baptêmes en Porsche samedi prochain, samedi 21 mars, pour, eh bien, les bénéfices seront donnés à l'association Les Improbables. On parlera d'endométriose dans cette émission. Voilà, c'est les improbables. Eh bien, ils viennent aider les femmes atteintes de cette maladie. Et puis, on partira dans le Gers, puisqu'on retrouvera une belle association également, une belle structure qui s'appelle Bulle d'Air. Focus donc aujourd'hui sur cette association départementale créée il y a plus de 10 ans par la Mutualité Sociale Agricole. Le service Bulle d'Air, il s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire au service du soutien aux aidants. Et ce soir, rencontre avec Julie Cabane, responsable, et Joëlle Raquin, référente du secteur Bulle d'Air dans le Gers. Et puis, le mercredi, on dit toujours que c'est la journée des enfants. Et bon, aujourd'hui, ça changera. Dans un jour, on livre un auteur, Philippe Meunier et Diego Rabal, ont rencontré une autrice qui a écrit des contes pour enfants. Voilà, mais ça aussi, c'est de la littérature. On découvrira tout ça dans quelques instants. Dans un jour, un livre, un auteur. Mais pour l'heure, on fait en place à l'actualité. On retrouve l'essentiel de l'actu de ce mercredi.
Coup de pression sur les municipales à Toulouse. L'entre-deux-tours, le MEDEF a haussé le ton à ce moment-là. Il s'inquiète pour l'avenir économique local, dénonçant une alliance contre nature et des conséquences possibles sur l'emploi et l'attractivité. Un rapprochement qui rebat les cartes à Rodez. Stéphane Mazard et Sarah Vidal unissent leurs forces pour le second tour avec une liste commune baptisée Rodez pour la vie en partage, présentée comme un moment fondateur. Un face-à-face tendu devant la cour d'assises de Tulle. Lucas Larrivé reconnaît avoir serré le cou de Justine Veyrac tout en niant l'intention de tuer. Les experts évoquent une strangulation comme cause du décès. Des parents qui refusent de rester silencieux à Toulouse. Le collectif de la circonscription 2 dénonce des classes surchargées et des enseignants absents non remplacés et interpelle directement le rectorat. Une réussite qui récompense des années d'apprentissage. Juan González décroche la première place régionale en boucherie et se qualifie pour la finale nationale après une épreuve exigeante à Mendes. Un nouveau rendez-vous créatif s'installe dans la Ville Rose. Le salon Quinten Toulouse réunira en avril passionnés de laine et de fait main, avec plus de 2000 visiteurs attendus.
Merci beaucoup, on retrouve l'actu d'ici quelques minutes.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque année. Bonjour Sylvie Sapé.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Très très bien, c'est un plaisir, je disais, de vous retrouver, puisque c'est vrai qu'au mois de mars, il y a cette opération qui s'appelle Mars Attack, que vous allez nous présenter. Vous êtes membre du Rotary Tarbes Bigorre et d'une autre association qui s'appelle Club 911 Pyrénées. Vous allez bien sûr nous parler de ces deux structures, et chaque année, vous vous choisissez de faire une opération de baptême, on va dire, en Porsche sur le golfe du Tumulus à la Loubert au profit d'une association. Et cette année, vous avez choisi l'association Les Improbables. Bien sûr, vous allez nous expliquer tout ça. Alors, débutons notre entretien par le début. Le Rotary, on connaît bien sûr le Rotary dans toutes les communes de France, parce qu'il y en a, beaucoup. Hein. Dans le département des Hautes-Pyrénées, vous êtes, il y a pas mal de Rotary.
Oui, oui, il y en a un peu partout. Il y en a peut-être, je ne sais pas, 6 ou 7, oui, tout à fait. Nous, on est le Rotary Club Tarbes-Bigorre. Et donc, moi, je l'ai rejoint donc, il y a 5 ans, parce que là, c'est ma 5e édition de Mars Attack.
D'accord.
Au coffre du Tumulus. Et toujours avec le club 911 Pyrénées-Océan. Et, donc, c'est une action caritative que l'on fait ensemble. Donc là, ça sera le 21 mars au coffre du Tumulus, pareil, de 14h à 17h. Et cet événement solidaire, il propose au grand public des baptêmes passagers en Porsche sur un parcours routier sécurisé et prédéfini. Et la participation est fixée à 10 euros par baptême. Et en effet, cette année, donc l'intégralité des fonds collectés sera reversée à l'association Les Improbables.
Alors
cette association...
Voilà, on va prendre un peu le temps de présenter cette association à nos auditeurs.
Alors cette association, elle est engagée dans la lutte contre l'endométriose et en soutien aux actions de Hand de France. Donc les Improbables, ce sont trois membres fondateurs qui sont ici à Tarbes, qui ont donc développé cette maladie chronique qui est encore insuffisamment connue du grand public. Et l'objectif de l'association est de soutenir donc l'association Endo France, qui se trouve donc à Paris, engagée dans l'information, l'accompagnement des patientes et la sensibilisation autour de cette pathologie qui est encore plus ou moins méconnue, on va dire.
Oui, 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 qui concerne bien sûr les dames, hein.
Oui, tout à fait. Oui, voilà. Oui, oui.
On avait reçu d'ailleurs vos collègues du Lyons sur un match de rugby féminin à l'occasion aussi effectivement de l'endométriose. Donc on en avait parlé. Et là, c'est donc une autre association qui s'appelle les Improbables, qui se situe où, à Tarbes?
Oui, qui se situe à la Loubert, tout à fait. Oui.
À la Loubert, d'accord. Donc le Rotary Tarbes Bigorre et le club 911 Pyrénées. Le club 911 Pyrénées, en deux mots, c'est quoi?
Alors, le club 911 Pyrénées, donc c'est un club de membres donc qui ont des Porsche et qui font dans l'année plusieurs sorties ensemble. Donc parce qu'elles aiment la vitesse et la mécanique, mais aussi on organise des actions caritatives. On fait non seulement Mars Attack, mais on fait aussi le Téléthon. Donc voilà, on est près de plusieurs actions aussi dans le 64 ou dans le 65.
Alors bien sûr, vous l'avez bien dit tout à l'heure, et c'est une précision importante, on ne vient pas prendre le volant de la voiture, on est bien passager, hein.
Et oui, tout à fait, on est bien passager.
Voilà, et on fait un petit tour bien sûr avec le propriétaire de la Porsche pour 10 euros, on fait un tour, on peut prendre des photos, bien sûr on peut discuter avec le propriétaire du véhicule et on fait un petit tour du côté de la Loubert, hein, c'est ça, hein?
C'est ça, et c'est de 14h à 17h, il n'y a pas besoin de faire des réservations, vous venez, donc la première personne qui vient, montrera dans la première Porsche qui est prête à partir.
Voilà. Et on rappelle bien sûr que les membres et ceux qui arriveront, les propriétaires des Porsche, le font sur leur denier personnel, c'est-à-dire qu'ils ne demandent absolument pas sur les recettes, sur les 10 euros, un remboursement, des frais, de l'essence et tout ça. C'est vraiment un don qu'ils font. Hein.
Tout à fait. L'intégralité des fonds sera renversée à l'association. Hein. Et on aura aussi un stand avec des crêpes. Et les Improbables aussi confectionnent des petits goodies, on va dire, à vendre pour mettre dans un livre, un book-note ou des choses comme ça. Hein, ou des petites pour mettre sur la tête. Voilà, ils ont aussi des choses qu'ils aimeraient vendre. Donc ça sera aussi des fonds collectés pour l'association.
Et on peut aussi venir chercher de l'information, et bien sûr, sur cette maladie.
Et oui, oui, tout à fait. Oui,
Peut bien sûr, pour ceux qui le peuvent, ils peuvent aussi faire un don à cette association qui s'appelle Les Improbables. Et c'est bien de mettre un petit focus sur ces associations caritatives, sur ces associations qui œuvrent pour la recherche et puis aussi pour donner de l'information pour cette maladie. On va rappeler bien sûr la date, c'est samedi prochain, hein, samedi 21 mars, de 14h à 17h au golf des Tumulus. C'est 10€ le tour et bien sûr, vous l'avez dit, l'intégralité des 10€ est bien reversée à l'association.
C'est ça, tout à fait. Donc venez nombreux. Et pour cette année, nous avons 20 pilotes qui se sont mobilisés.
D'accord.
Car dans les associations, on se rend compte que dans la famille, on a quelqu'un qui est touché par cette pathologie. Et donc on se mobilise fortement pour cette action.
C'est la 5e édition. Comment se sont passées les dernières? Parce qu'on a le plaisir de vous avoir sur Radio Présence chaque année pour faire la promotion. Mais est-ce que vous avez du monde? Vous avez des gens qui reviennent? Quels sont les retours?
Oui, on a beaucoup de monde, il y a beaucoup de succès, les gens reviennent. Il y a aussi le fait que si vous achetez plusieurs baptêmes de Porsche, après vous pouvez participer à un tirage au sort. Et dans ce tirage au sort, le club Porsche 911 Pyrénées-Océan vous emmène rouler sur le circuit de Pau-Arnos pour faire un baptême de circuit. Et cette année, on était au circuit Pau-Arnos il y a 2 semaines, et le gagnant de Mars Attack de 2025 était avec nous.
Waouh. Ah oui, d'accord. Oui. C'est sympa.
Donc voilà, oui. Donc les gens, ils nous suivent, ils reviennent parce qu'ils veulent participer aussi peut-être à ce tirage au sort.
Ouais. Ah ben voilà. Alors ça, c'est important. Voilà, nos auditeurs, venez si vous voulez vous faire un vrai plaisir un jour. Eh ben, venez. D'abord, c'est une bonne action. Venez chercher de l'information. Venez soutenir cette association qui s'appelle Les Improbables grâce à vos deux structures, le Rotary et Tarbes Bigorre et le Club 911 Pyrénées qui mettent à disposition leur véhicule et ce sont toujours des moments partagés très sympathiques avec le chauffeur, le propriétaire.
Le pilote, oui, tout à fait, oui. Vous pouvez prendre des photos avec vous dans la voiture, voilà. Et donc on a des voitures, il faut avoir un minimum pour les enfants 10 ans pour qu'ils puissent s'asseoir devant.
Oui, sinon, sans avoir besoin de siège.
Derrière, voilà. avec un parent, voilà.
Oui, et puis ce sont bien sûr des véhicules qui font rêver tout le monde. Une Porsche, c'est toujours des véhicules très prestigieux. Donc c'est un joli souvenir qu'on peut s'offrir ou offrir à un enfant.
Voilà, tout à fait.
Voilà. On va rappeler la date, Madame Sapé, c'est samedi prochain.
Samedi 21 mars, de 14h à 17h, baptême en Porsche ouverte à tous, au coffre du Tumulus à Laloubert.
À Laloubert, à côté de Tarbes, vous l'avez dit, c'est entièrement gratuit. Enfin, l'accès, tout le monde, il n'y a pas besoin de réservation. Et c'est 10€. Pour faire un tour et vous aurez donc des stands bien sûr du Rotary de votre club aussi je pense le club 911
oui.
Pyrénées et puis bien sûr les improbables viendront donner toutes les informations pour cette maladie l'endométriose qui est vraiment problématique pour certaines femmes effectivement. Merci beaucoup Madame Sapé. Bien, écoutez, on a le plaisir de vous rencontrer d'année en année. Les associations changent chaque année. Hein. L'année dernière, il me semble que c'était pour les enfants, non?
L'année dernière, c'était Transande. Il y a 2 ans,
c'était pour un véhicule. Voilà.
Oui. Pour le véhicule l'année dernière.
Oui.
Il y a 2 ans, c'était pour Cœur de Ménat,
voilà.
Donc à l'hôpital de Tarbes, donc c'était pour le service pédiatrie. En effet.
Exactement. Voilà, et chaque année, donc l'association, et cette année, c'est Les Improbables. Allez, rendez-vous samedi prochain, 21 mars, de 14h à 17h, au golf des Tumulus. C'est très bien indiqué, à la Loubert, à côté de Tarbes. À l'année prochaine.
Oui, merci, à l'année prochaine.
Au revoir, Madame Sapé.
Au revoir.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Diable aussi, quand tu es là, et rien ne va mieux qu'ici-bas. On change de vie, on change de moi, de jour aussi, quand on. Rien ne va mieux qu'ici. les flamands des bourreaux. Et rien ne va mieux qu'ici bas. Et rien ne va mieux qu'ici bas. Mieux qu'ici bas. Rassure-toi.
À Lannemezan, 92.2.
Focus aujourd'hui sur une association départementale créée il y a plus de 10 ans par la Mutualité Sociale Agricole, le service Bulleder. Il s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire au service du soutien aux aidants. Je vous propose de retrouver notre correspondante dans le Gers, Pauline Cazier, qui a fait la rencontre avec Julie Cabane, la responsable, et Joël Raquin, référente du secteur de Bulleder.
Julie Cabane, bonjour. On est ici à Bulleder, à Auch. Bulleder, qu'est-ce que c'est ?
Bulleder, c'est un service qui a été créé par une association qui s'appelle Midi-Pyrénées Sud Solutions Service. Cette association a été créée il y a plus de 10 ans par la Mutualité Sociale Agricole. Ce service Bulleder s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire et il est au service du soutien des aidants.
Alors, oui, parce que les aidants, ce sont les gens qui souhaitent vraiment respirer. On parle de répit. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Il y a énormément d'aidants en France.
Tout à fait. En France, en 2025, on compte entre 8 et 11 millions d'aidants. Ces aidants, ce sont des conjoints, des enfants, des amis, des proches qui accompagnent au quotidien une personne âgée, malade, en situation de handicap. Ça peut être leurs parents, leurs enfants, leurs conjoints. Il faut savoir qu'ils jonglent souvent entre vie professionnelle, obligations familiales et soutien à leurs proches. Et sans relais, leur fatigue peut s'installer. C'est pour ça que le besoin de répit est réel pour eux. C'est pour répondre à ce besoin de répit que notre service Bulleder a été créé. Et grâce à nous, pour répondre à leurs besoins de relais, nous accompagnons plus de 290 familles sur les territoires, sur nos territoires d'intervention, pardon, que sont la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège.
Donc vous dites combien de familles ?
290
familles.
Voilà. Nos relayeurs peuvent être des aides-soignants, des éducateurs, des travailleurs sociaux. Parfois, nous avons également d'anciens aidants familiaux qui souhaitent continuer à œuvrer pour le répit des aidants. Ils peuvent intervenir à la carte, en journée, la nuit, 24 heures sur 24, sur un week-end, une semaine ou plus. On accompagne vraiment les aidants au plus près de leurs besoins de répit. On peut intervenir ponctuellement ou régulièrement. Et on vient en complémentarité des autres services ou professionnels qui interviennent à domicile, comme les infirmiers, les kinés et les aides à domicile. Le relayeur est là pour apporter une présence, un soutien moral à la personne accompagnée. Il est là pour écouter, il est là pour partager un repas, se promener. Et il est une présence précieuse qui permet à l'aidant de souffler.
Et là, il faut apporter une précision importante. Il ne fait pas tout ce qui est soins, qui est destiné plutôt aux aides-soignants, c'est ça ?
Alors, en principe, le relayeur est vraiment là pour remplacer l'aidant familial. Et donc, il n'a pas vocation à effectuer des soins techniques qui relèveraient d'un infirmier ou d'un aide-soignant. On peut être amené à faire de l'accompagnement sur des soins tels que la toilette ou le changement de protection. Mais nos responsables de secteur font bien attention à ce que personne ne soit en difficulté dans ces cadres-là. Et donc, que ce soit dans les compétences de la personne relayeuse.
Bon, je vais passer la parole à Joël Raquin. Bonjour Joël. Vous êtes responsable sur le secteur. On va parler de l'aspect pratique, concret. Quand une famille a besoin de souffler, elle s'adresse à vous. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes de sélection d'abord des familles? Elles viennent vous voir et comment ça se passe?
Bonjour, donc moi je suis responsable sur le secteur du Gers. Donc la famille, l'aidant souvent nous contacte tout d'abord par téléphone, mais ça peut être aussi un contact par nos partenaires, donc comme une assistante sociale de l'APA par exemple, ou tous les partenaires sociaux qui peuvent nous contacter donc suite à un besoin d'un aidant qui accompagne régulièrement son proche. Sur un premier contact téléphonique, on va prendre en compte les besoins de l'aidant, son besoin de relais, les besoins de la personne aidée, bien connaître ses besoins en termes d'autonomie. Donc on va proposer un devis pour évaluer le coût. Proposer aussi rechercher des aides financières pour diminuer permettre à la famille d'avoir une prise en charge. On va rechercher le professionnel de l'aide à domicile qui va correspondre par rapport aux besoins déterminés. Et ensuite, on va proposer une évaluation à domicile. Donc, pour bien prendre en compte les besoins de la personne aidée et de son aidant, on va présenter aussi le professionnel qui interviendra.
Donc, alors, justement, ce professionnel, qui est ce professionnel? On trouve des personnes qui travaillent dans le soin? On trouve qui exactement?
Donc, ce sont des professionnels de l'aide à domicile, donc des auxiliaires de vie, assistants de vie, aides médico-psychologiques. Il y a des aides-soignantes aussi. Nous avons aussi des personnes retraitées, des professionnels du médico-social que l'on recrute, donc, et on le présente à la famille pour aussi bien prendre en compte les besoins d'accompagnement de la personne aidée.
Donc, vous arrivez chez la famille, parce que c'est très important de rencontrer la personne pour la première fois, et après, vous voyez le nombre d'heures qu'il faudrait par semaine. Ça peut être 3 heures, ça peut être plusieurs jours d'affilée. selon la, ce que souhaite la famille.
Oui, bien sûr, des familles ont besoin d'un relais régulier, une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. On s'adapte aux besoins, vraiment. C'est selon le besoin, c'est un petit peu un service à la carte, comme l'on dit. Selon le besoin de relais de l'aidant, on fait aussi des interventions de nuit, de jour, 24 heures sur 24, des week-ends entiers, des semaines entières aussi. Si l'aidant veut s'absenter plusieurs jours, on peut organiser un relais 24 heures sur 24 aussi auprès de l'aidant.
Puisqu'on est dans le Gers, combien de familles qui sont suivies ici?
Environ une cinquantaine de familles sur le Gers.
Et ce sont les personnes qui sont aidées, ce sont des personnes qui sont atteintes de handicap ou des personnes âgées tout simplement?
Pour la plupart, ce sont des personnes âgées avec des troubles neuro-évolutifs. On accompagne aussi les personnes en situation de handicap, enfants en situation de handicap aussi.
Ce qui est important de dire, c'est que quand on fait appel à un aidant, ça soulage énormément. Il y a peut-être des familles qui ne connaissent pas cette structure. C'est vraiment une aide psychologique.
Oui, bien sûr, les aidants trouvent un réel profit de ce temps de répit.
On peut peut-être rappeler comment... Donc, on trouve l'association dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers et la Haute-Garonne. Et l'Ariège, c'est très important. Julie Cabane, quand on parle de répit pour les familles, est-ce que vous avez constaté, en effet, que c'est vraiment psychologiquement très important? Est-ce que vous avez eu un retour des familles sur ce plan-là?
Oui, tout à fait. Ben, les familles qu'on accompagne nous font souvent le retour que nous portons bien notre nom, puisque grâce à nous, ils ont des véritables bulles d'air. Et d'ailleurs, souvent, des personnes, des aidants font appel à nous initialement, ponctuellement, parce qu'ils doivent s'absenter impérativement sur un week-end ou une nuit. Et au final, on voit que ces aidants-là reviennent vers nous régulièrement pour mettre en place des interventions, car ils trouvent vraiment des bénéfices à ces temps de répit. Que ces personnes, du coup, vont régulièrement faire appel à nous. Ce qu'on voit, c'est que les aidants retournent ensuite vers l'extérieur, reprennent des activités sociales, prennent aussi des rendez-vous médicaux qu'ils avaient mis de côté depuis longtemps, reprennent soin d'eux et grâce à nos interventions, peuvent avoir ces moments-là pour souffler et du coup maintenir leur relation avec leurs proches aidés et ça leur permet aussi de pouvoir les accompagner plus longtemps et de reculer forcément l'entrée en institution.
Je reviens à Joël Raquin juste pour l'aspect financier. L'aspect financier, c'est important. Il y a peut-être des familles qui ont peur de faire appel à des aidants parce que l'aspect financier bloque. Mais il faut préciser bien que vous pouvez trouver des solutions de ce côté-là.
Oui, tout à fait. On recherche les aides dont peuvent bénéficier les familles. Donc, on a quand même des partenariats avec la MSA, la CPAM, les caisses de retraite complémentaires. Et on peut aussi solliciter, dans le cadre de l'APA ou de la PCH.
Oui.
Les aides au répit.
Merci beaucoup.
Voilà, à l'instant, vous avez pu entendre Julie Cabane, responsable, et Joëlle Raquin, référente du secteur de Bulles d'Air. Merci beaucoup à Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Avec une petite minute d'avance, on va retrouver le journal de la mi-journée qui nous est présenté par Kevin Mouveau, qui est élève aujourd'hui dans l'école de journalisme, l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et on le retrouve pour le journal de la mi-journée.
Bonjour à toutes et tous. Arrivé à l'entre-deux-tours des municipales à Toulouse, le MEDEF tire la sonnette d'alarme dans un communiqué. Après le premier tour, l'organisation patronale de Haute-Garonne s'inquiète pour les entreprises ayant de nombreuses attentes. Stabilité fiscale, sécurité, logement ou encore attractivité. Le MEDEF critique aussi une alliance jugée contre nature et alerte donc sur les risques pour l'emploi et l'économie locale. Retour sur les municipales à Rodez, un tournant décisif. Les candidats Stéphane Mazard et Sarah Vidal unissent leurs forces pour le second tour. Arrivés deuxième et troisième au premier tour, ils lancent une liste commune baptisée Rodez pour la vie en partage. Objectif affiché, rassembler et peser face à la majorité sortante. Une alliance présentée comme un moment fondateur dans cette campagne municipale en Aveyron. Un procès sous haute tension à Tulle. L'accusé du meurtre de Justine Veyrac, Lucas Larrivé, est longuement interrogé ce mardi. À la barre, il reconnaît avoir serré le cou de la jeune femme trop fort, tout en niant toute intention de tuer et les accusations de viol. Les experts évoquent une strangulation comme cause du décès. Face aux contradictions, l'accusé est poussé dans ses retranchements. L'émotion reste vive dans la salle d'audience, relate la Dépêche. École sous pression à Toulouse, les parents montent au créneau. Le collectif de parents d'élèves de la circonscription 2, né autour des écoles Sozlong et Ricardi, dénonce des absences d'enseignants non remplacés et des classes surchargées. Plusieurs établissements du secteur ont rejoint le mouvement. La famille pointe aussi un manque de réponse du rectorat. Deux mobilisations sont prévues, jeudi devant les écoles, puis vendredi matin devant le rectorat pour exiger des solutions. Place à l'actualité plus légère. Le meilleur apprenti d'Occitanie en boucherie est désormais connu. Juan González, récemment sacré meilleur apprenti des Hautes-Pyrénées, décroche la première place ex aequo à la finale régionale à Mendes. Après 5 heures d'épreuves techniques, il s'est qualifié pour la finale nationale fin mai à Vannes. Une belle récompense pour cet apprenti formé à Tarbes qui poursuit désormais sa préparation avec ambition. Enfin, Toulouse déroule le fil de la créativité. La Ville Rose accueillera les 18 et 19 avril la première édition de Knick and Toulouse, un salon dédié à la laine et au tricot. L'événement porté par 4 passionnés locaux se tiendra à la Halle aux Fleurs du Mine. Au programme, 36 exposants, des ateliers et des espaces d'échange. Plus de 2000 visiteurs sont attendus pour ce nouveau rendez-vous du Fémin.
Et le journal de la mi-journée nous était présenté par Kevin Mouveau, de élève et étudiant à l'Institut supérieur du journalisme de Toulouse. Et le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Le mercredi, on dit souvent que c'est la journée des enfants. Et bien aujourd'hui, dans un jour, un livre, un auteur, on parle d'une autrice qui a écrit des livres d'ailleurs, qui leur est consacré.
Présence à Pau, 96.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Alors on a beaucoup d'invités par téléphone, mais c'est toujours un vrai plaisir de les accueillir en chair et en os dans nos studios. Bonjour Philippe Noni.
Bonjour Philippe Subercase.
Et bonjour Diego Arabal.
Bonjour les deux Philippe.
Bonjour Diego Arabal.
Alors monsieur
Noni,
bonjour
à tous.
Il n'est pas besoin de vous approcher du micro comme vous le faites. On vous entend très bien. Je pense que vous seriez même de l'autre à Bagnères que vous entendrez.
Ouais. Donc il y a pas de souci. Vous voulez dire que j'ai une grosse voix, mais ouais, voilà. C'est souvent ce qu'on m'a dit même quand j'étais au collège et au lycée, ouais.
Votre invité aujourd'hui, on l'a déjà reçu à deux reprises.
Et oui.
Là, vous la faites revenir pour une troisième fois.
Eh bien parce qu'elle est prolixe dans ses productions. Sûr. Et puis pour une fois, j'ai fait une petite entorse au polar pour lire la prose de notre invité.
Que vous ne nous avez pas présenté encore.
Que je vais présenter maintenant et qui s'appelle Bérangère Lannemont-Marancy, que nous avons déjà reçu parce que c'est notre ami Philippe qui l'avait invité. Pour une fois, c'est moi. Nous nous sommes rencontrés dernièrement à un salon. Elle m'a gentiment donner son petit bébé qui vient de paraître. Et donc, je me suis dit, je vais le lire et je vais la recevoir. Voilà. Alors, bonjour Bérangère.
Bonjour.
Bonjour Bérangère.
Alors, je vous reçois pour un petit livre qui s'appelle Le cœur dans les étoiles. Un livre que vous avez écrit et qui est illustré par Laurence Elisabeth Bordaveri, qui n'a pas pu être là ce matin avec nous, ce que nous regrettons, mais on aura l'occasion de parler de son travail. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines lorsqu'on vous avait reçu pour un autre de vos livres dans lequel elle aussi elle avait mis sa patte, c'est le cas de le dire. Alors, Le cœur dans les étoiles, c'est une histoire qui se passe quelque part dans les Pyrénées, mais c'est une histoire qui est dans un coin un peu étrange dans les Pyrénées, un coin un peu magique, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, ça se passe dans les Pyrénées, au pic du Midi. Mais ce pic du Midi, il est un peu fantastique, il est un peu merveilleux. Il est un peu merveilleux, il est un peu fantastique. Donc, voilà. Donc, j'ai imaginé un pic du Midi un peu différent, avec des habitants, comme un chat serval, enfin, voilà, différentes espèces animales qui se côtoient et qui deviennent amies. J'ai imaginé un chemin merveilleux avec des habitations, des cabanes, des maisonnettes, voilà, des personnes qui, en fait, se reposent dans cet endroit-là. Donc, j'ai imaginé presque tout un village, là. Voilà.
On pourrait croire d'ailleurs qu'on est quelque part comme dans le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, c'est-à-dire dans un lieu magique, suspendu, en dehors de la vie que nous connaissons, nous, et avec un certain nombre de personnages. Je pense à Espérance, qui est un papillon femelle, à Liberté, qui est une louve historique, mais on en dira peut-être deux mots, Persévérance, une abeille, et puis il y a des humains. Il y a Colette, oui, une humaine, il y a un mage, et puis il y a un animal que j'affectionne particulièrement, parce que moi j'adore les chats, qui est Batou, un chat serval, qui intervient dans cette histoire. Et tous ces personnages-là s'organisent les uns par rapport aux autres, mais il n'y a pas de concurrence, comme on pourrait croire dans la nature. Là, il y a une sorte de complémentarité.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est de la complémentarité, c'est-à-dire que les personnages sont là pour livrer leur expérience, pour cheminer, en fait, les uns les autres, et s'enrichir... faire connaissance, apprendre à se connaître les uns les autres, et partager. C'est chaque fois des moments de partage. Et quand je parle, par exemple, du chat serval, eh bien, ce chat serval va partager ses connaissances et va présenter sa maîtresse, qui est Colette. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, il y a toute une présentation avec ces différents personnages, voilà, qui s'enrichissent les uns les autres, en fait, voilà, de leur expérience, mais aussi apprennent la bonté, apprennent le partage. Voilà.
Donc il y a une sorte de leçon de vie dans ce petit roman.
Voilà, pardon, il y a beaucoup de leçons de vie. En fait, ce papillon qui était l'héroïne de mon premier livre, Le Messager du Soleil, elle a perdu Renaissance en chemin, hein, voilà, et elle se retrouve seule au pic du Midi, et elle a besoin de rechercher son identité. Et donc, la rencontre avec ces différents personnages, on va dire, va l'aider à construire sa vie, à comprendre des choses concernant le monde et la mission de vie qu'elle a ici. Voilà.
D'accord. Vous introduisez un personnage qui s'appelle Liberté, qui est une louve, et je disais que c'est une louve historique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, alors Liberté, c'est la louve des origines. Et pour moi, Liberté, la louve, elle a une vie, même si c'est mythologique. C'est l'origine avec Romulus et Rémus, l'origine de Rome, donc la fondation de Rome. Et donc je suis enseignante et je fais un petit peu de latin. Et c'est vrai que j'aime bien aussi ne pas oublier ces fondations, on va dire. C'est important pour l'enfant de comprendre l'origine de Rome, mais aussi ce qui s'est passé. Alors j'ai imaginé, effectivement, alors j'ai pas complètement imaginé, c'est vrai que la louve, elle a bien recueilli Romulus et Rémus, elle les a allaités jusqu'au jour où un berger est venu et a découvert ces deux enfants et les a élevés. Donc j'ai imaginé, en fait, après la vie de la louve avant la découverte de Romulus et Rémus et ce qu'elle a pu ressentir. Parce que pour moi, les animaux, ils ont aussi, voilà, ils ressentent des choses. Que ce soit un chien, un chat, peu importe. Mais il y a une relation avec l'animal. Donc, je me suis dit, ben, cette louve, finalement, même si, voilà, c'est de la mythologie, je me suis dit, mais voilà, elle a ressenti sûrement quelque chose, un sentiment d'abandon. C'est une mère. Donc, j'ai fait le rapprochement avec la mère qui perd ses enfants. Mmh. Voilà. Donc, c'était pour moi important de l'introduire et d'expliquer à Espérance combien les hommes qui se battent, qui luttent, qui voilà, parce que Romulus et Rémus, on peut dire que effectivement il y a eu une lutte entre eux pour avoir le royaume et fonder Rome. Donc il y a cette violence derrière. Et donc je me suis dit, bah effectivement c'est important de dire aux personnes, regardez, attention, ne vous disputez pas pour un morceau de pain. Voilà, essayez d'être toujours dans le partage et essayez toujours d'être dans l'écoute. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai introduit aussi la louve, de dire, la louve, elle témoigne, elle dit, voilà, j'ai quand même, j'ai vu des choses. Elle dit, j'ai vu des choses assez violentes. Les hommes se font la guerre, hein, donc. C'est quelque chose d'insupportable pour la louve.
D'ailleurs, la guerre est quand même un arrière-plan, même si elle n'est pas présente au cœur, mais elle traverse quand même de loin
tout le livre,
puisqu'il y a cette guerre entre Romulus et Rémus, qui déclenche des hostilités, qui va déclencher le comportement guerrier de Rome, si on peut dire. Plus tard, on rencontre Colette, cette humaine qui est la maîtresse, entre guillemets, parce que les chats n'ont pas de maître, les chats ont du personnel. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, ils vont rencontrer Colette, cette humaine qui a quelque chose à voir avec la guerre, et que l'on retrouvera plus tard, dont on retrouvera plus tard des traces dans le roman. Mais on voit bien que c'est un arrière-plan, et c'est d'autant plus fort qu'il y a une rupture totale entre le récit lui-même, qui est un récit de paix, qui parle d'apaisement, qui parle d'amour, qui parle de confiance, qui parle de coopération. Et cet arrière-plan qui est toujours présent de guerre, que ce soit la guerre à partir de Rome, mais que ce soit aussi la Première Guerre mondiale, puisqu'à un moment donné, un personnage qui va apparaître autour de la Première Guerre mondiale, et on voit bien la mission qui est donnée à Espérance est une mission par rapport à la pacification.
Voilà. En fait, la rencontre avec Colette, c'est l'écrivaine, hein, donc je me suis basée aussi sur des recherches concernant cette écrivaine qui est assez engagée, qui a aussi du caractère et qui a été employée en collège hôpital. Et donc, elle a vu certaines choses. Elle a vu des soldats des soldats qui ont des blessures assez profondes, des soldats estropiés et voilà. Donc elle l'a vu. Et en fait, pour moi, il était important que Colette revive et témoigne de cette guerre et dire à Espérance, il faut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, il faut cesser de vivre dans cette violence, dans ces combats permanents. Et ensuite, c'est vrai que il y a ce soldat qui entre en jeu. Et c'est vraiment la mission d'Espérance, c'est d'apporter la douceur, le bien-être et on va dire pas de gommer les souffrances, parce qu'elle ne peut pas, Espérance, gommer les souffrances de ce soldat ni de Colette, mais de pouvoir dire, c'est délivrer un message en fait, de pouvoir, après ces rencontres-là, de pouvoir dire aux personnes, tâchez de faire attention, tâchez de faire attention à ce monde-là, à cette société, essayez de vivre en paix, de partager, d'échanger, sans pour autant se disputer ou en venir à la guerre.
Il y a ce passage où Espérance a une mission qui est d'aller rencontrer un personnage. Et en fait, ce personnage, il est dans le noir, au sens propre du terme. C'est-à-dire que tout votre livre est dans la lumière. Et lui, il est dans le noir dans ses yeux, le noir dans sa demeure, le noir peut-être dans sa tête. Et Espérance a comme mission d'éclairer. Alors, il ne s'agit pas de faire disparaître cette noirceur, mais de révéler les couleurs qu'il peut y avoir et dans laquelle le noir en fait partie. Donc je trouve que c'est un passage qui est extrêmement extrêmement intéressant. Philippe, vous aviez envie de lire un petit passage, j'ai l'impression.
De lire un petit passage, tout à fait, parce que je trouve que ça illustrera effectivement l'échange que vous aviez tous les deux, Diego Arrabal et Bérangère Lannemorency. C'est en page 42 de votre roman, Bérangère. Et puis en 1916, j'ai voulu voir de plus près cette guerre. De très longues heures de train dans le froid. À 10 kilomètres du front, je me suis caché chez un sous-officier. Tout près du faubourg, c'est là que je l'ai remarqué. « Qui donc ?» demandai-je intrigué. Je buvais ses paroles et son histoire attisait ma curiosité. Ce soldat du 62e régiment d'infanterie, comme un animal blessé et affamé, il furetait à droite, à gauche, sali par la boue, alourdi par son barda, sa musette presque vide. Je me souviendrai toujours de son regard noisette. Je me suis approché de lui. Quelques blessures au bras droit entachaient son manteau. Étrangement, son poignet gauche était enroulé dans un morceau de chiffon. À cet instant, je ne sais alors ce qui m'anima, mais je le pris dans mes bras. Le silence nous a réunis quelques secondes alors que les avions de chasse vrombissaient alentour. Il a eu juste le temps de prononcer quelques mots et de me confier son bout de tissu. Je n'ai jamais revu ce jeune homme, mais je peux te certifier, Espérance, que ce combattant recherchait la paix entre les lignes de mon sourire naïf. Au moment précis où nos regards se sont croisés, un sifflement s'est écrasé à quelques kilomètres de nous. Et notre course est perdue contre la mort, nous sépara brutalement.
C'est un passage extrêmement fort et intéressant. Et en fait,
je sens ému, Diego Arrabal, même quand vous en parlez.
C'est un peu émouvant. À un moment donné, ce personnage, donc le mage confie une mission à Espérance. Espérance va essayer de remplir cette mission. Elle la remplit un peu, mais pas totalement comme elle l'espérait. Et cet homme qui vivait dans le noir va lui confier une autre mission et la faire partir et la faire revenir à son point de départ puisqu'elle était partie de Pau. Elle va revenir dans la ville de Pau et elle doit rencontrer quelqu'un ou du moins elle a un signe de la personne qu'elle doit rencontrer, une bicyclette bleue. Oui. Est-ce que c'est un hasard si c'est une bicyclette bleue?
Non, c'est pas. Enfin, c'est pas.
C'était un roman d'origine de Forges, ça. Ouais. C'est à ça que vous pensez, Diego Arrabal?
Oui, oui, c'est vrai que la bicyclette bleue. Alors, il y a deux choses. Hein. La bicyclette bleue, c'est vrai que je suis fan de Régine de Forges et j'ai lu tous les.
C'était le premier de la trilogie, celui-là. Oui, c'était le premier de la trilogie. Ouais.
Et en même temps, vous voyez, la bicyclette bleue, c'est ma première bicyclette.
Ah, d'accord.
Moi aussi. C'est voilà. En fait, mon grand-père avait. Je crois qu'il avait gagné au tiercé, enfin à l'époque il jouait au tiercé, et puis en fait avec l'argent il m'avait acheté une bicyclette. Voilà.
D'accord.
Et la bicyclette était bleue aussi.
D'accord.
Donc c'est
à la fois un retour vers votre passé, mais aussi une résurgence de vos lectures d'un auteur que vous aimez.
Oui, d'un auteur que j'aime bien, oui. Voilà.
D'accord. Donc on n'en dira pas plus parce qu'il faut quand même que nos auditeurs aillent lire le roman. Alors ce roman, il n'est pas qu'un roman. Il est aussi un roman avec des illustrations, réalisé par votre amie Laurence Elisabeth Bordaberry, oui. Et qui a une particularité, mais vous en aviez déjà parlé lors du précédent roman que vous nous aviez présenté ici, que Philippe avait présenté, c'est qu'elle fait des dessins avec...
Oui, avec du vernis à ongles usagé. Elle a une armoire chez elle. Encore l'autre jour, elle me disait, je ne sais plus où les mettre. J'ai une armoire de vernis à ongles usagé. Et donc, elle peint, elle réalise ses dessins et ses peintures avec le vernis à ongles usagé. Elle utilise aussi l'aquarelle, bien sûr. Mais voilà, elle mélange. Alors, ce qui lui plaît, c'est mélanger aussi les couleurs, associer des couleurs et puis les vernis un peu brillants aussi. Elle aime beaucoup ce genre de...
Est-ce que vous voulez qu'on lance une annonce à la radio pour les personnes qui auraient du vernis usagé pour,
Tout à fait, ils peuvent m'envoyer un mail. Et...
voilà. Vous voilà. Laissez votre courrier à la fin, Bérangère
Lannot.
Oui,
je vais laisser le mail. Ils peuvent effectivement envoyer...
Plutôt que de le jeter, au moins que ça soit utilisé pour les illustrations de vos romans. Quoi.
Bien sûr. Mmh. Et donc, ces illustrations, en fait... Là, elle a fait un gros travail et un très beau travail. Je la remercie infiniment. Si elle nous écoute, je la salue. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais elle a fait un énorme travail.
Il y a une grande douceur.
Il y a beaucoup de douceur.
Il y a une très très grande douceur qui se dégage effectivement des dessins, y compris par exemple en page 43, le dessin de ce soldat donc avec cet avion. Oui. Qui le surplombe. Mmh. En page 42, cette image de la Tour Eiffel avec cette infirmière.
Infirmière,
ouais. On sait que il y a eu énormément de femmes, on l'oublie souvent, pendant la Première Guerre mondiale et aussi durant la Seconde Guerre mondiale, qui se sont occupées des hommes qui revenaient du front. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, des gens qui n'arrivent plus à boire, vous dites qu'il faut effectivement mettre sur la bouche une serviette pour pouvoir donner humidifié. De l'humidité, parce que voilà, ils ont une partie de la bouche arrachée certainement par un éclat d'obus. Vous le dites pas, mais c'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on comprend. Voilà, on comprend que ce sont des gueules cassées. Quoi. Oui. Il y en a eu 700 000, on rappelle quand même.
Oui, oui.
700 000 gueules cassées durant la Première Guerre mondiale, pour.
Moi, je vois aussi page 69 toute la tristesse dans la vignette concernant ce personnage qui vit dans le noir et avec le noir.
Oui, ce regard.
Donc, il y a un regard extrêmement fort.
Oui, c'est puissant.
Et en même temps, extrêmement épuré, puisqu'on est juste avec des traits bleus, noirs.
Oui, c'est laissé...
Et sur un fond blanc.
Ouais,
et
donc... Tout à fait. Elle a le don, on va dire que c'est... Pour moi, elle a un don, c'est de laisser passer l'émotion, la lumière ou l'obscurité à travers ses peintures, à travers ses dessins. Et comme vous dites, en fait, c'est épuré, c'est-à-dire qu'elle ne va pas charger son tableau parce qu'il n'y a pas besoin, il y a juste une émotion qui passe, je pense à la main avec le papillon au bout du doigt.
Oui, toujours voilà, sur cette page à 69.
Voilà, toujours là, sur cette page 69, qui va illustrer ce paragraphe, parce qu'à chaque fois, on a essayé avec la maison d'édition
de pouvoir positionner
les
par rapport au texte. Oui.
Complètement. Mmh, mmh. Et pour donner une idée, en fait, ça accompagne en fait, le lecteur dans ce monde, en fait. Mmh. Ce monde imaginaire, voilà, ça l'accompagne un petit peu et ça lui permet de visualiser davantage la maison, par exemple, je vois à la page 65, la maison de Colette, on a aussi le bocal du mage, qui contient, je ne dirais pas, mais qui contient quelque chose de magique.
Une poudre magique. Voilà. Ouais.
Donc, elle a beaucoup de goût aussi permettre d'associer les couleurs comme ça, se permettre d'associer les couleurs. Et je sais, elle a, elle a, parfois elle laisse passer son inspiration, enfin elle laisse glisser cette inspiration et ça fait un visage un peu surprenant à la page 72, avec notamment un visage qui n'est pas qui s'associe aux étoiles, voilà, qui n'est pas forcément un visage avec un regard, mais le regard, ce sont les étoiles. On peut imaginer plein de choses, en fait.
Voilà. Peut-être des étoiles filantes.
Oui, des étoiles filantes ou le bal de la lune et des étoiles. Oui. Comme,
et en fait, c'est plus que des illustrations, ce sont des enluminures, presque. Mmh. On est presque dans un,
oui, exactement.
Dans un texte avec enluminures,
oui.
Où on a ces dessins qui viennent faire du contrepoint au texte, qui viennent le souligner, vibrer avec, etc. Donc c'est vraiment un très beau travail en commun,
oui,
quoi.
Oui, et la couverture aussi. Et la couverture a été très bien réalisée.
L'objet livre est très beau. C'est vrai qu'on parle très souvent. Alors, on est à la radio, on peut pas le voir, mais c'est vrai que pour les personnes qui vont se procurer le livre, l'objet livre et la qualité du papier aussi.
Oui.
Hein, il faut en parler parce que bon, vous prenez un livre de poche. Un livre de poche, c'est bien. La particularité du livre de poche, c'est qu'il est pas cher. Mmh. Ça permet de lire, mais bon, c'est vrai que la qualité du papier sur un livre de poche, c'est pas ça qu'on va rechercher, quoi.
Non.
Hein, clairement. Mmh. Par contre, dans votre livre, il y a une qualité à la fois dans l'écriture, il y a une qualité dans la mise en page, il y a une qualité dans les illustrations donc de Laurence Elisabeth Bordaberry, et c'est vrai que bon, le tout, ça donne effectivement un objet livre qui est très très agréable, et je suis pas du tout surpris que Diego Arabal ait eu envie de vous réinviter après la première invitation, et puis bon, on attendra la suite maintenant.
Oui, on attend déjà, on le met au présent. Enfin, c'est vrai que le soldat, c'est une histoire qui me touche particulièrement, puisque le soldat, c'est le grand-oncle de mon père, et en fait, je fais des recherches sur sa vie et je voudrais retracer son itinéraire. Un soldat qui est un soldat béarnais qui vit dans une maison, dans une famille de 10 enfants au départ, et qui malheureusement est décédé sur le front, au front.
Et vous savez où il est enterré ou pas?
Oui, à Soissons. Enfin, il est dans une nécropole. Amblenie.
Dans une nécropole.
Oui.
D'accord.
Nécropole, oui, à Amblenie, oui, oui. Et donc, voilà, j'ai des documents, j'ai des photos, donc je fais beaucoup de recherches sur lui, j'ai voulu vraiment lui rendre hommage à travers ce livre et cette histoire aussi. Et puis, voilà, donc pour moi, ça a été un gros travail avec Laurence Bordaberry. Ça a été un gros, gros travail. Mais c'est vrai que le livre, l'objet livre est beau.
Et bon. Eh bien, merci Bérangère d'être venue nous rencontrer. Donc, vous nous avez présenté Le cœur dans les étoiles aux éditions Maya, illustré par Laurence Elisabeth Bordaberry. Merci Bérangère Lannou-Marancy, et puis au plaisir de vous retrouver avec votre prochain opus.
Vous revenez quand vous voulez ici, hein, vous savez que la porte est ouverte. Hein.
Merci beaucoup, merci à vous pour ce moment qui était très agréable. Merci Diego et merci Philippe.
Et puis
merci
voilà, et voilà comment du salon pyrénéen, eh bien, on a des invités.
D'accord, et bien voilà.
À bientôt.
À bientôt, Philippe Supercaz.
Vous revenez pas bon pied, bon œil, puisque vous avez un souci avec le genou. Mais
voilà. Et comme il le dit, crise de goutte, ça arrive. Et je ne mange pas de charcuterie, je le précise.
Et je tenais à vous féliciter parce que malgré le genou enflé et la douleur, mais vous êtes quand même fidèle à ce rendez-vous.
Et j'ai monté les escaliers, mais difficilement pour venir à présent.
Pour vous descendre, avec Diego.
Il faudra que je descende tout à l'heure.
On va vous aider.
On va vous prendre sur une chaise. On va vous descendre.
On est à Lourdes, Philippe Supercaz. Tout va bien, c'est pour ça.
Je vais vous amener à un endroit, vous allez voir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercaz. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
Présence à Saint-Bertrand de Comminges, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le peuple de Dieu participe à la mission prophétique du Christ. Le pape a poursuivi ce matin sa méditation sur l'Lumen Gentium.